Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Sainte-O. Alors d'habitude, vous le savez, ce sont les collégiens qui prennent le micro. La classe média de 4e assure depuis une dizaine d'années les émissions autour des portes ouvertes de l'institution et autour du Salon du Livre Jeunesse.
Pour cette émission spéciale, ce sont des lycéens qui ont pris le micro. Et on vous propose une émission autour d'un thème, la promotion de l'égalité femmes-hommes. Une émission basée sur des rencontres et des interviews. On parlera de la place de la femme dans les cours d'histoire avec Lorraine Massy. On s'intéressera au féminisme dans le milieu culturel avec Laura Costa du Grand Bleu. On ira à la rencontre du CORIF Conseil Ingénierie Formation pour l'égalité entre femmes et hommes. Mais on va commencer avec un portrait, celui de Céline Reversé, chef d'entreprise.
Dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons découvert l'association 100 000 entrepreneuses dans les Hauts-de-France. Une asso qui a pour but d'inspirer les jeunes. Avec nous au téléphone, Céline Reversé, membre de cette association et chef d'entreprise.
Je m'appelle Céline Reversé, j'ai 39 ans et aujourd'hui donc, je suis gérante d'une entreprise de gîtes, en fait, un hébergement touristique à durée saisonnière. D'accord. Et puis également donc, salariée pour une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et qui a comme axe principal notamment de favoriser l'entrepreneuriat porté par les femmes.
Je suis
également maman de 3 enfants.
Oh, félicitations.
Merci.
Combien est-ce que vous avez de salariés ?
J'en ai pas. Je suis toute seule dans mon entreprise. C'est ce qu'on appelle une micro-entreprise.
Et donc, vous gérez tout ce qui est comptabilité ou quoi que ce soit seule ?
Alors, je gère vraiment donc toute seule, hein, que ce soit l'opérationnel. Donc, ce que j'appelle l'opérationnel, c'est vraiment la remise en état du bâtiment, sa logistique, sa maintenance. Mmh. Je m'occupe également donc de recevoir les demandes de réservation, de créer les contrats de réservation et d'accueillir les personnes qui sont donc en situation de tourisme et d'arrivée donc, et de départ également, avec l'état des lieux du bâtiment.
Ok, merci.
Je m'occupe vraiment toute seule, de A à Z.
Et donc, comme vous êtes tout seul dans votre entreprise, c'est un choix personnel ou alors c'est vous qui en avez décidé
Alors, c'est aussi une impossibilité de recruter, puisque les horaires que je demande, en fait, ne sont pas faciles. Ils ne sont pas les mêmes toutes les semaines. Donc, il est très difficile d'établir des contrats horaires. C'est aussi pour cela que j'ai des difficultés de recrutement et que je suis à même de le faire toute seule. Parfois aussi, c'est les week-ends et c'est pas toujours évident de trouver du personnel disponible le week-end.
Ok, je vois. Mais si par exemple, vous trouviez quelqu'un ou quoi, ça serait plutôt un homme ou une femme ou c'est égal pour vous ?
Ah oui, moi, ça m'est complètement égal. Oui, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Il n'y a aucune différence,
ça
bien
marche.
Évidemment.
Ok. Et donc, est-ce que pour vous, vous considérez qu'un homme va... par exemple, mieux créer, diriger l'entreprise qu'une femme et comment, du coup, on peut atteindre, parce qu'on sait que dans beaucoup d'entreprises, la femme est bien souvent soit juste salariée, mais pas forcément chef de l'entreprise. Donc, comment considérez-vous votre métier comme un métier dit homme ?
Alors justement, le problème que l'on rencontre, c'est que les jeunes femmes font trop souvent des choix d'orientation, puis de carrière en fonction des stéréotypes persistants. Comme par exemple, il y a des métiers qui sont soi-disant plutôt orientés masculins et des métiers orientés féminins, ce qui finalement n'est pas la réalité du monde du travail quand on gratte un petit peu. Et comme elles méconnaissent souvent la création d'entreprises dans leur orientation professionnelle, elles n'intègrent pas dans leur choix de carrière. Donc, nous, chez 100 000 entrepreneurs, justement, on essaye de leur apporter des modèles d'entrepreneuriat au féminin pour leur montrer que c'est possible et qu'il n'y a pas ce plafond de verre que l'on pense qui existe quand on est jeune. C'est pas vrai du tout. C'est si chacun croit en ses rêves, quand la personne a vraiment la détermination et son idée dans la tête, elle peut aller au bout de ses rêves, que ce soit un homme ou une femme. Alors, c'est vrai qu'après, malheureusement, dans la société, il y a encore 20 ans, quand vous alliez à la banque pour demander un prêt, en tant que femme, on vous demandait et comment vous allez faire pour gérer votre entreprise et vos enfants en même temps. Aujourd'hui, ces questions n'ont plus le droit d'exister dans le domaine bancaire. On ne doit plus poser ces questions-là aux femmes, puisque l'égalité, la parité dans le monde du travail font qu'il y a des interdits et que si on vous pose en tant que jeune fille cette question, vous devez même y refuser d'y répondre. Donc vraiment, il est aujourd'hui, je pense que la place de la femme, elle est égale à la place de l'homme. Et il n'est pas plus difficile en tant que femme de créer son entreprise ou d'être manager, cadre dans une grande entreprise qu'un homme.
Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à une femme qui a soit peur de se lancer par rapport à la vie des hommes, enfin au regard des hommes, etc.
Ben, je leur dirais, sois courageuse déjà, parce qu'une femme, elle aura quand même toujours à gérer son foyer, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il y a trois vies en une vie. Par rapport à un homme, il y a peut-être parfois dans sa tête que le souci de sa vie professionnelle. Mais ça change aussi. De plus en plus, dans les foyers, les hommes prennent des tâches dites féminines, hein, comme on pourrait penser. Mais aussi, je leur dirais, n'aie pas peur, lance-toi, mais n'y va pas toute seule surtout. Il y a des réseaux qui existent, hein, des réseaux d'entrepreneurs féminines, comme Bouge ta boîte, comme les Mampreneurs, comme les femmes chefs d'entreprise, qu'on appelle le réseau FCE. En fait, il en existe plusieurs, je vous en cite trois, mais il en existe bien plus que ça, où ce sont des femmes qui se regroupent, justement, en tant que chefs d'entreprise, pour se serrer les coudes, vous voyez, échanger, faire aussi de la recommandation entre elles, prospecter entre elles, avoir la force du réseau, éviter la solitude, ne pas se morfondre toute seule de son côté, gérer son entreprise, gérer ses enfants, gérer sa vie de famille, c'est pas possible. Il faut déléguer, il faut se faire aider, il faut se faire entourer.
Ça marche.
Ce que je leur dirais.
Est-ce que dans votre entourage personnellement, vous connaissez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont des femmes ?
Oui, j'en connais, bien sûr, j'en connais beaucoup, puisque chez 100 000 entrepreneurs, on est sans arrêt à la recherche de bénévoles, donc qui sont chefs d'entreprise et qui témoignent de leur parcours auprès des jeunes dans les classes. Donc oui, autour de moi, j'en connais beaucoup. Alors, elles ont parfois des TPE, donc ce qu'on appelle la très petite entreprise, mais parfois aussi, elles sont à la tête d'une beaucoup plus grosse entreprise, voire même de trois entreprises. Et aussi, je connais aussi des managers, des cadres en entreprise. Et parfois aussi, je connais des femmes qui sont dans le domaine scientifique, dans le domaine numérique, c'est-à-dire dans des endroits où on les attend pas. Et un autre domaine aussi dans lequel je connais des femmes, c'est dans le métier de maréchal ferrant, où je rencontre de plus en plus de maréchal ferrant féminines, alors que le métier est quand même assez rude et physique. Il serait plus approprié à des hommes, de base, hein, dans les stéréotypes. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de femmes chefs d'entreprise.
Que pensez-vous de l'égalité homme-femme ?
Ben, je pense que c'est ce à quoi la société doit aboutir. Voilà. Je pense que le sujet dont on est en train de parler aujourd'hui, et je l'espère, n'aura plus lieu d'être dans quelques années. Voilà, je pense que la parité, l'égalité des hommes et des femmes ne devrait même plus être un sujet. Devrait être acquis depuis longtemps, que les femmes, elles ont bien su prouver la place dans la société, et puis que nos jeunes filles, nos enfants n'aient même plus cette question à se poser à l'avenir.
Bonjour. A-t-il été compliqué pour vous d'accéder à votre rang et avez-vous été méprisée par certains hommes ?
Alors, je ne vais pas dire méprisée, mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand vous expliquez que vous avez envie de créer une entreprise et que vous avez vraiment cette idée en tête que vous allez la porter toute seule. On vous ouvre pas grand les portes, en fait, au départ. On vous explique, ah, ben, tu verras, quand tu auras des enfants, ce sera différent. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous faire changer d'avis. C'est pas toujours bien accueilli. Voilà, malheureusement. Donc, il faut lutter contre ces croyances limitantes. Il faut lutter contre peut-être ces banquiers aussi qui veulent pas forcément vous prêter l'argent dont vous avez besoin pour créer votre entreprise. Il faut aller en chercher d'autres ailleurs. Il faut lutter un petit peu plus, malheureusement. Malheureusement, il faut lutter un petit peu plus en tant que femme qu'en tant qu'homme, quand on veut dire accéder en fait à des positions sociales supérieures.
Pour la dernière question, vous pourriez nous raconter une petite anecdote qui vous est arrivée pendant votre carrière de chef d'entreprise ?
Alors, une petite anecdote. Oh là là, ça, c'est la moins évidente de vos questions parce que je ne me souviens pas tout dans les détails, donc il faut aussi une anecdote qui reprenne, je pense, la difficulté que j'ai rencontrée. C'est ça, en tant que femme ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Bah, en tout cas, je peux vous dire qu'à aujourd'hui, dans mon quotidien d'aujourd'hui, en tant que femme, je suis confrontée au télétravail depuis toujours, hein, puisque mon entreprise elle est à côté de ma maison aussi. Et donc, je travaille toujours avec mes enfants à côté. Voilà. Et je pense que ça, déjà, ça détermine un petit peu la société d'aujourd'hui, où travailler avec ses enfants à côté, ils nous voient, on donne l'exemple. C'est pas toujours évident parce qu'ils comprennent pas toujours que eux-mêmes, on ne soit pas attentif à eux, mais plutôt à notre travail. C'est vrai que si j'ai une anecdote à vous dire, c'est un peu mon quotidien. C'est le télétravail, la gestion d'entreprise et tout ça avec des enfants dans la même maison. Ça, c'est pas évident, c'est parfois folklorique. Et voilà, mais je pense que ça fait partie de la société d'aujourd'hui.
Bon, bah du coup, on vous remercie tous et merci pour votre participation et vos réponses.
Voilà. Merci beaucoup.
Bonne continuation.
À vous également.
Merci, au revoir. Alors, nous recevons à présent au téléphone Madame Mathilde Rouet. Elle est consultante égalité au CORIF Lille. Et CORIF, ça veut dire Conseil, Ingénierie, Formation pour l'égalité entre femmes et hommes. Bonjour Madame Rouet.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les domaines d'intervention de l'association CORIF en quelques mots ?
Oui, alors l'association CORIF œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle intervient auprès de nombreux acteurs pour atteindre cet objectif. Auprès des femmes éloignées de l'emploi dans l'insertion professionnelle, auprès des entreprises pour les aider à réaliser leur index égalité et à mettre en place des mesures en faveur de l'égalité professionnelle, auprès des jeunes et des équipes éducatives en milieu scolaire, principalement collège-lycée, pour travailler sur la mixité des métiers, la lutte contre les stéréotypes. On crée également des outils pour travailler sur tous ces aspects-là et faire avancer ces questions.
Merci. Et quelles sont vos fonctions et vos missions au sein de l'association ?
Alors, moi, je suis consultante égalité. C'est un terme très vaste dans lequel j'ai plusieurs missions. Je travaille à la fois comme conseillère en insertion professionnelle, j'anime des ateliers collectifs et j'accompagne individuellement des femmes éloignées de l'emploi qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui n'ont jamais travaillé, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Donc je les aide dans leur démarche, je propose des collectifs qui vont leur permettre d'améliorer leur situation, de prendre confiance en elles, de découvrir des métiers, découvrir des structures d'insertion, etc. J'interviens également auprès des professionnels de l'insertion, de l'orientation et de l'emploi pour les outiller et les former sur les questions d'accompagnement spécifique des femmes en difficulté et sur l'élargissement des choix professionnels, c'est-à-dire comment on accompagne des publics vers des métiers non mixtes, donc des femmes dans des métiers où il y a très peu de femmes et des hommes dans les métiers où il y a très peu d'hommes. Enfin, j'interviens auprès des jeunes et des équipes éducatives en milieu scolaire, donc j'anime des ateliers et des formations pour travailler, comme je disais, pour lutter contre les stéréotypes, pour l'inclusion de tous et toutes dans les établissements scolaires et lutter également contre le sexisme et favoriser l'orientation sans stéréotypes de sexe.
Quel est le constat que vous faites au sujet de l'égalité homme-femme aujourd'hui en 2023 ?
Alors, des constats, il y en a beaucoup dans des nombreux domaines. Bon, on va essayer de pas être trop négatif. Je pense que les choses évoluent. Déjà, ce qu'on peut dire de positif, c'est que de manière, on va dire sur le plan médiatique et aussi sur le plan de la communication, on va parler de plus en plus et on entend de plus en plus parler de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les sexismes, des violences intrafamiliales. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une avancée parce que plus on en parle, plus on visibilise ces situations-là et plus ensuite on fait prendre conscience aux gens et à la société qu'il y a besoin d'agir là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, depuis MeToo, une grande avancée pour tout le monde. Après, aujourd'hui, bah, il faut que ça redescende dans le concret du quotidien. Donc, il y a des choses qui sont mises en place par les pouvoirs publics, mais aussi par les associations, par les citoyens, citoyennes, pour faire progresser ces questions d'égalité. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, en matière d'égalité professionnelle, on a encore du travail à faire sur l'égalité salariale. On est encore à 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc ça vient aussi du fait que les femmes et les hommes ne s'orientent pas vers les mêmes domaines. Donc on a aussi du travail à faire sur la mixité des métiers. Aujourd'hui, par exemple, on a seulement 12% de femmes dans les métiers du bâtiment, 28% de femmes dans les métiers de l'industrie. Donc ça, il faut aussi faire progresser cette question-là. Il y a aussi toute la question On en parle actuellement de l'écart des pensions de retraite qui est très important. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 40% entre les femmes et les hommes. Donc ça, sur le plan professionnel, pour faire brièvement. Ensuite, sur le plan de tout ce qui va être les violences conjugales, mais aussi les violences faites aux femmes en général, les violences sexistes et sexuelles, il y a encore également beaucoup de travail à faire. Le chiffre des meurtres de femmes, des féminicides annuels ne baisse pas réellement. Il y a toujours beaucoup de femmes qui, en déposant plainte, ne sont pas reçues, accueillies de manière bienveillante et prises au sérieux dans ce qu'elles vivent. Donc il y a aussi toute cette évolution qui doit se faire dans les pratiques de ce côté-là. Donc je pense voilà que c'est les aspects principaux sur lesquels il y a du travail à faire. Et également il y a une étude du Haut Conseil à l'égalité qui est sortie cette semaine qui montre aussi que sur le plan du sexisme dans la société, on a encore du chemin à parcourir, notamment sur prendre en compte le partage des tâches ménagères, prendre en compte le fait que chacune a son rôle à jouer dans l'éducation, que c'est pas seulement une affaire de femmes, travailler aussi sur les représentations autour du corps des femmes et de leur soi-disant responsabilité dans les situations de violence et de sexisme. Voilà, donc faire évoluer toutes ces représentations. Et puis aujourd'hui, pour finir, je pense que ça c'est aussi positif, de plus en plus de personnes expriment leur diversité, leurs différences, osent affirmer, sortir aussi de la binarité de genre, mais ça reste dans certains milieux peut-être sociaux, dans certains milieux aussi urbains, etc. Et donc c'est aussi comment toutes ces libérations, l'émancipation de soi peut aussi prendre plus de place dans l'ensemble de la société.
Alors, comme vous l'avez dit aujourd'hui, le féminisme et l'égalité homme-femme est un sujet très important. D'un point de vue personnel, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à travailler pour Corif ? Et y a-t-il eu un élément déclencheur à cet emploi ?
Oui, alors avant de travailler pour le Corif, j'ai fait des études dans la gestion de projets de solidarité internationale et locale, et j'ai également fait un master genre où j'ai vraiment fait des études spécifiques autour des questions de genre. Donc je suis rentrée moi dans les questions féministes par une rencontre avec une salariée de l'association Ni Pute Ni Soumise à Bordeaux qui m'a fait ouvrir les yeux en fait sur la situation des droits des femmes en France voilà à notre époque. Et donc ça a été un déclencheur de mon envie de m'intéresser à ces questions féministes. Et petit à petit, tout au long de mon parcours, j'ai fait le lien entre mes études et les enjeux d'égalité. Je suis rentrée au Corif il y a 3 ans et demi. Je cherchais un emploi justement qui allie de la gestion de projet et de l'accompagnement public dans ce domaine de l'égalité professionnelle. Donc le Corif m'a semblé une structure vraiment intéressante pour faire ça, parce qu'on est très polyvalente dans nos missions. On intervient auprès d'un grand nombre d'acteurs, ce qui permet que les expériences avec les uns servent à enrichir notre accompagnement avec les autres. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité y rentrer.
Alors comme vous le savez sûrement, aujourd'hui nous sommes lycéens et donc nous serons bientôt confrontés à des choix d'orientation. Est-ce que pour vous, il y a beaucoup de stéréotypes encore sur les choix professionnels ?
Oui, alors à première vue, quand j'interviens dans les établissements scolaires, les jeunes disent toujours « Ah ben non, mais on fait le métier qu'on veut, non mais moi je vais décider ce que moi je désire, etc. » Donc a priori, on se dit « Bah, y a pas de problème ». Sauf que la réalité, c'est que finalement, les choix d'orientation aujourd'hui, ils restent très genrés. On va avoir en filière professionnelle, là où c'est le plus marqué, quasiment que des filles dans les filières de l'aide à la personne, de la cuisine, des choses comme ça. On va retrouver dans l'éducation également, et dans les filières professionnelles, on retrouve beaucoup plus d'hommes, de garçons en formation, dans tout ce qui est bâtiment, dans l'industrie, etc. Donc Voilà, le constat, c'est que ça évolue très très doucement en réalité. En filière générale, en L et ES également, on voit des différences, même si aujourd'hui c'est plus marqué de cette manière les filières, mais dans les options que prennent les jeunes. Et donc ça questionne effectivement la différence entre le sentiment d'égalité et la réalité aussi sur des choix que font les jeunes. Donc les barrières, elles sont à plusieurs niveaux. Déjà, depuis qu'on est petit, on est conditionné par les jouets, par notre environnement, par les modèles qu'on voit à aller vers certains goûts, à aller vers certains centres d'intérêt, à développer des connaissances aussi dans certains secteurs, ce qui fait que on va se dire moi j'ai envie d'aller dans ce secteur-là, et au final sans forcément se dire que c'est parce qu'on est influencé quelque part par notre environnement. Donc il y a aussi ce travail à faire de faire découvrir l'ensemble des métiers et de montrer des rôles modèles d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité. Parce que si on n'a jamais vu de femmes qui travaillent comme développeuses web, par exemple, on a des difficultés à imaginer que c'est un métier possible pour nous. Et pareil, si on n'a jamais vu d'hommes sages-femmes, on se dit non, c'est pas un métier pour moi. Donc l'idée, c'est de travailler là-dessus sur toutes les représentations qu'ont les jeunes. Après, il y a un autre frein, c'est les adultes eux-mêmes, parce que ce soit parfois l'équipe éducative, parfois les parents aussi ont leur propre résistance, ont leur propre représentation et vont parfois décourager certains choix qui leur semblent ne pas correspondre à ce qui est la norme et ce qui serait le mieux pour leur enfant ou pour le jeune accompagné, et sont eux-mêmes parfois pris dans ces représentations-là, ou vont parfois encourager certains choix qui se retrouvent dans les stéréotypes.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
De rien, avec merci. Plaisir.
L'égalité femmes-hommes dans les milieux culturels et artistiques, voilà un vaste sujet. On se souvient du lancement du hashtag MeToo dans le milieu du cinéma il y a quelques années. Alors, pour en savoir plus, nous recevons à présent Laura Costa, chargée de relations avec les publics au Grand Bleu à Lille.
Donc aujourd'hui, on vous a demandé de venir, et vous êtes venu, merci beaucoup en tout cas, pour parler donc, du féminisme dans le milieu culturel. Donc comme vous faites partie d'un théâtre, on va plutôt se pencher sur le côté du théâtre, si vous le voulez bien. Donc on aura plusieurs questions à vous poser, et puis je vais laisser la parole à Zoé qui va commencer par ça.
Bonjour, je voulais vous demander la question, y a-t-il des actions dont vous avez connaissance qui sont menées dans le milieu culturel et plus précisément dans le milieu du théâtre ?
Des actions précises en faveur du coup du féminisme ?
Oui.
Alors déjà, il y a donc le milieu du spectacle vivant, il y a un syndicat qui s'appelle le Syndéac, donc qui est le syndicat des entreprises culturelles. Et du coup, ils font par exemple des édits un petit peu tous les 3 ans, je pense, pour évaluer dans le secteur culturel la part aussi des femmes. Donc là, c'est sur les questions d'égalité et de représentation. Et puis aussi, il y a un peu comme dans toutes les structures, dans tous les établissements, il y a des formations en faveur de la parité. Et nous, plus spécifiquement au Grand Bleu, donc on est une scène artistique conventionnée art enfance et jeunesse. Et par exemple, cette année, on fait aussi des actions de médiation, notamment un apéro pédagogique qui parle du féminisme sur scène à destination du jeune public.
Est-ce que vous trouvez objectivement qu'il y a des inégalités dans le secteur du théâtre ?
Alors, le secteur du théâtre et du spectacle vivant, il ne déroge pas à une règle comme toute la société, c'est d'un manque de parité. Ce qui est intéressant dans le secteur du spectacle vivant, c'est que sur les bancs d'école de l'enseignement supérieur, il y a à peu près 60% de représentation de femmes sur les bancs de l'école. Mais qu'au moment de l'embauche, et donc dans les théâtres, là on tombe à 40% de représentation des femmes. Donc ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'égalité. Ce qui est aussi intéressant, c'est la représentation des femmes sur les postes de direction. Ça, par exemple, c'est une vraie question dans le milieu du théâtre, mais partout, en fait. C'est qu'il y a une sous-représentation des femmes. Il n'y a aucune femme qui a un poste de direction d'un théâtre national. Pour ce qui est des CDN, donc des centres dramatiques nationaux, il n'y a que 9% de directrices. Si on parle des centres chorégraphiques nationaux, il y a 79%, enfin, autour de 75% d'hommes à la tête de ces centres chorégraphiques. Et puis...
Je crois que c'est pour, je vais relire, mais je crois que ouais, c'est pour les 7 nationales, il y a quand même une représentation de 64% d'hommes. Donc ça montre clairement qu'il y a une grande disparité au niveau de la représentation. Moi, si je parle au niveau de mon métier, donc chargée de relations avec les publics, je pense que vous l'avez peut-être observé si vous allez dans les théâtres, mais il y a beaucoup de femmes en fait qui sont chargées de relations avec les publics. C'est quelque chose qui est presque symptomatique, on ne saurait pas l'expliquer, mais voilà, comme dans tous les pans de la société, il y a des différences entre l'égalité homme-femme et de la représentation. Après, le jeune public est un peu une exception à la règle, notamment au niveau de la programmation. On atteint une certaine parité dans la programmation artistique des scènes jeunes publics, autant au niveau des autrices qu'au niveau de juste la programmation par saison.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans ce milieu du théâtre par rapport à la fonction de l'artiste pour la femme?
La fonction de l'artiste pour la femme, tu veux dire dans peut-être les programmations culturelles, dans oui. Ce qui est fait alors oui, il y a une évolution, sachant que le féminisme, ça devient vraiment c'est un sujet d'actualité. Et le milieu du théâtre et du spectacle vivant, c'est une bonne scène, en fait, pour cette thématique. Notamment, nous, au Grand Bleu, on a un focus, si on a fait un apéro pédagogique cette année, c'est parce qu'on a un focus sur 3 spectacles qui parlent de féminisme. Et un spectacle, en plus, qui vous concerne, puisque c'est lors de notre festival Youth is Great, où, en fait, on a 3 spectacles. On a notamment le spectacle Boîte Noire, de Colline Garcia, qui est autour de du métier de circassienne et des stéréotypes de genre qui dominent au niveau du cirque. Donc on va en parler. On a le spectacle Over the Top, qui est un spectacle de la compagnie Lire attentivement avant utilisation, qui là sera une séance féminisme et aérobique. Donc d'initiation au féminisme tout en faisant un cours de sport qui va être hyper intéressant. Et puis on a le spectacle, on a notre artiste associée Amélie Poirier qui fait le spectacle 20e rue Ouest, qui est aussi une dimension du féministe à travers la photographie. Donc en fait, c'est vraiment un sujet au-delà, nous, du Grand Bleu, où c'est un sujet d'actualité. En plus, on s'adresse aux jeunes générations, donc c'est important pour nous. Mais aussi dans d'autres théâtres, vous voyez beaucoup de spectacles en fait, qui parlent de cette thématique. Donc il y a une évolution, je dirais, plus de représentation parce que c'est un sujet d'actualité et parce que du coup, les artistes, autrices, mais même parfois auteurs, ont à cœur en fait, de représenter cette thématique sur scène.
Pensez-vous que le milieu artistique est en avance sur l'acceptation de l'égalité homme-femme ?
Alors, il y a le discours public et il y a mon avis personnel. Je pense que discours public, il y a des fortes évolutions. Elles ont été soulignées. Il y a eu un rapport du ministère de la Culture en 2021 sur la question de l'égalité homme-femme, où on montre des avancées. Même moi, les chiffres que je vous ai donnés sur les directions d'établissements culturels, publics ou privés, c'est une évolution par rapport à il y a des années. Après, le milieu culturel, il n'est pas exempté en fait, de cette différence homme-femme et de représentation. C'est triste à dire, mais en fait, on est un peu un miroir de la société. Quand je vous ai parlé de la surreprésentation des femmes dans le chargé de relations avec les publics, et pourtant, elles ne sont pas représentées sur les postes de direction, c'est quand même assez symptomatique. Et puis, moi, à titre personnel, je suis très engagée personnellement, je suis militante, et c'est un combat aussi quotidien de, tu vois, le milieu de la technique, par exemple. Être technicien de spectacle, tu vois, je dis technicien, mais en fait, c'est parce qu'il y a une surreprésentation des hommes. Être une femme technicienne, ça reste aujourd'hui un défi. On parle souvent, aussi des problèmes de représentation, mais par exemple, on fait des formations obligatoires aujourd'hui dans les structures culturelles sur les VHSS, donc les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le milieu culturel en a aussi besoin. Souvent, on prête un peu ce milieu culturel un peu plus élitiste, parce que c'est des personnes qui sont éduquées, qui font des études supérieures, mais en fait, ça ne nous exempte pas d'avoir aussi des différences hommes-femmes. Et ce qui est important, c'est de les combattre tous les jours, d'avoir des programmations qui en parlent, aussi d'en discuter, nous, au sein de nos structures, et puis de faire avancer les choses. Là, récemment, je ne vais pas parler que de ma structure, mais par exemple, on a Audrey Hardiette qui a été, qui est devenue directrice de la scène nationale La Rose des Vents, à Villeneuve-d'Ascq. Je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, ça avance, en fait. Il y a de plus en plus de représentations de femmes qui aussi apportent leur regard et qui peuvent aussi faire avancer les choses. Malheureusement, à titre personnel, je trouve que le secteur culturel n'est pas exempté de ces différences et des stéréotypes de genre, mais ça tend à évoluer. Mais il faut rester positif. Hein.
Alors, je voulais vous poser la question. Connaissez-vous quelqu'un ayant subi une mauvaise expérience dans votre milieu, donc le milieu culturel ?
Question intéressante. Alors, je dirais pas personnellement, je pourrais pas nommer, mais voilà, c'est de notoriété. Je parlais notamment de cette formation VHSS. C'est intéressant parce que si on l'a faite, c'est parce qu'il y a eu des cas. Moi, ça me fait tout de suite penser au mouvement MeToo, en fait. Il est né quand même de ce secteur culturel. Il émane aussi de ce secteur-là. C'est que, en fait, c'est au cœur aussi de nos préoccupations. Après, j'en connais pas personnellement. Forcément, il y a des on-dit, des histoires, des différences pour des promotions, par exemple, qui on va mettre en avant, les rapports au directeur. Alors là, par contre, oui, il y a des histoires, forcément, des on-dit, des bruits de couloir, mais qui sont symptomatiques d'une vraie situation. Des directeurs, aujourd'hui, d'établissements artistiques qui ont très mauvaise réputation, qui parfois ont un rapport aux femmes qui est problématique. Aujourd'hui, la formation contre les violences et harcèlement sexiste et sexuel, elle est en deux parties. C'est qu'il y a une partie certes pour les salariés, mais il y a une partie pour les directeurs et directrices. Donc c'est quand même la preuve que ça doit aussi émaner de manière assez verticale parce que parfois c'est dans les postes de direction qu'il y a des problèmes. Donc voilà, je ne vais pas citer, mais ça se sait.
Donc vous nous parliez tout à l'heure que dans le secteur donc, de la jeunesse, vous releviez quand même une certaine égalité entre la représentation des hommes et des femmes. Donc pensez-vous que ce secteur pourrait constituer en soi un espoir de voir plus tard sur d'autres secteurs qui sont moins adressés à la jeunesse, une réelle égalité entre les hommes et les femmes ?
Oui, je pense qu'il y a un espoir, déjà parce qu'on s'adresse directement à la jeunesse, donc ça donne tout de suite une espèce de médiation dès le début de son parcours de spectateur ou spectatrice. Quand je disais la différence, c'est juste revenir que, par exemple, on a pour les salles, on va dire classiques, c'est un mot un petit peu bancal, mais il y a 35% de représentation des femmes dans la programmation artistique. Dans le secteur jeune public, c'est autour de 47%, donc c'est une différence. Pour ce qui est des autrices, pour le milieu du spectacle vivant, c'est 29% habituellement, tandis que c'est plus élevé, autour de 50-60% pour le secteur jeune public. Et en même temps, le secteur jeune public, il est particulier, c'est qu'il est un peu mis à part dans le spectacle vivant, peut-être un peu, dévalorisé, mais un peu mis à part par les institutions aussi politiques, parce qu'on s'adresse à la jeunesse et que souvent, ça ne constitue pas, pour les subventionneurs ou les financeurs, un biais d'accroche. Mais en tout cas, j'ai espoir, parce que voilà, par exemple, pour nos apéros pédagogiques, on en a fait sur la question du genre, aujourd'hui, on va en faire sur le féminisme, on a une bonne audience. On a aussi des jeunes générations qui sont très intéressées par ça et on est ravis de pouvoir s'adresser à elles. Et aussi parce qu'on est en lien avec les établissements d'enseignement supérieur. Notamment, vous avez par exemple un master à l'Université de Lille, où moi, par exemple, j'ai étudié. Oui, très sincèrement, on était 90% de femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme le secteur se renouvelle, on peut avoir derrière aussi des embauches, on peut avoir une représentation, et je pense que même dans le secteur jeune public, ça tend à évoluer.
D'accord, ben, en tout cas, je pense qu'on en a fini au niveau des questions, oui. Donc nous voulions vous remercier encore une fois d'être venu.
En
tout cas, oui, votre point de vue au niveau culturel nous a beaucoup éclairé, en tout cas pour notre émission. Et c'est aussi toujours bien d'avoir une personne qui est engagée dans des associations pour justement lutter contre ces inégalités. Merci beaucoup. Et puis,
merci à vous.
On va laisser place à la prochaine rubrique. Merci beaucoup.
Merci.
Et la place des femmes dans l'histoire dans tout ça? On va terminer cette émission spéciale de Radio Saint-O avec une interview de Lorraine Massy-Legrand, professeure d'histoire à Saint-Odile.
Bonjour, donc aujourd'hui on va vous poser des questions sur l'intégration des femmes dans les cours d'histoire. Mm-hmm. Donc première question.
Intégrez-vous les femmes dans vos cours d'histoire?
Alors, je les intègre de différentes manières. Alors déjà, quand il y a des portraits à faire ou des exemples à donner, c'est vrai que souvent, j'aime bien prendre des exemples qui sont des exemples féminins, justement pour prendre le contre-pied de certains programmes où en fait on voit qu'on a beaucoup entendu parler de personnages historiques masculins. Et donc maintenant, j'essaie de mettre vraiment la lumière sur les femmes, notamment par exemple dans le premier chapitre sur la Révolution française, où j'accorde carrément une séance aux femmes de la Révolution, aux femmes qui ont fait la Révolution, parce qu'on connaît Robespierre, on connaît Marat, on connaît Danton, mais on connaît peu Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges, etc.
Que pensez-vous de l'intégration de leur histoire dans l'éducation?
Alors, je suis en désaccord avec certaines autrices qui aujourd'hui disent que, bah voilà, on ne parle pas assez des femmes dans les programmes scolaires. Je trouve que maintenant, avec les nouveaux programmes, justement, on accorde plus de place à la femme dans les programmes scolaires. Par exemple, cette année, on a vu Georges Sand, on a vu Manon Roland. En terminale spécialité, on parle de Marie Curie. Ça, c'est dans le programme, en fait, on est obligé. Donc voilà, je trouve que la place de la femme a été davantage mise en valeur avec le nouveau programme, donc la réforme en fait du lycée.
Quelles sont les réactions de vos élèves ?
Il y a différentes réactions. Il y a des réactions qui sont positives mais aussi négatives. J'ai vu dans cette classe de première où il y a eu certaines réactions assez positives, où il y a des filles et même des garçons qui sont très motivés pour parler de tout ça, qui sont vraiment investis dans tous ces sujets. Par contre, il y a eu quand même certaines voix masculines qui trouvent que madame, on parle trop des femmes, vous êtes toujours en train de parler de la même chose. Donc on a quand même ce genre de petites réflexions quand même.
Est-ce que vous trouvez utile de les intégrer dans l'histoire, notamment pour l'ouverture d'esprit des jeunes ?
Oui, évidemment. Oui, je trouve ça très important de parler des femmes, mais pas que dans le programme d'histoire. Je trouve que c'est important aussi de parler d'elles en spécialité. Par exemple, je parlais de Malala sur l'éducation. C'est vrai que c'est important de voir aussi bien les femmes dans l'histoire française, mais aussi au-delà, en fait, de sortir un peu des sentiers battus aussi.
Quel personnage féminin vous a le plus marqué et pourquoi ?
Alors ça, c'est très difficile à choisir. Le premier personnage féminin qui m'inspire, c'est ma maman. Voilà, c'est hyper classique, mais c'est vrai. C'est très mignon aussi. Après, j'ai beaucoup d'exemples. C'est-à-dire que la reine qui m'a donné aussi envie de faire de l'histoire, c'est Marie-Antoinette. Mais après, en tant que personne, c'est vrai qu'elle est très contestable sur beaucoup de points. Je dirais aujourd'hui... à égalité, Georges Sand et Simone Veil. Parce que chacune, dans leur époque, elles ont su tirer leur épingle du jeu, elles ont su être présentes dans des combats, qui étaient des combats féministes, mais aussi dans leur vie personnelle. Et je trouve que ce sont deux icônes dont il faut parler et que moi, évidemment, j'intègre à mes programmes, évidemment.
Que pensez-vous de la promotion de l'égalité homme-femme dans l'éducation et qui se rapproche des jeunes, en fait ?
Alors, donc c'est quelque chose qu'on entreprend de faire notamment en EMC, dans cet enseignement moral et civique avec cette question autour du lien social et des questions aussi des discriminations. Je pense que c'est très important qu'on prenne à bras le corps ce sujet, qu'on retrouve aussi bien au collège qu'au lycée. Moi, je trouve qu'on fait le job. Je pense qu'on peut le faire encore plus parce que, grâce à des émissions, des choses que vous faites ou même se rendre dans des associations. Moi, je sais que j'ai une ancienne élève qui fait partie de Nous Toutes à Lille. Donc je trouve que c'est important aussi d'en parler et je trouve qu'on fait le job avec ce genre d'expérience à l'école, mais que on n'est qu'au début de tout ça.
Ok, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission spéciale de Radio Saint-O consacrée à la promotion de l'égalité femmes-hommes, une émission réalisée dans le cadre de nos cours d'EMC avec Monsieur Gibault, en partenariat avec RPL Radio et son directeur Arnaud Darras. Nous tenions à remercier tous nos invités. Et bien entendu, les journalistes qui ont préparé tous ces sujets.
Morgane, Armand, Louis, Léna, Anaë, Enzo, Candice, Antoine, Adrien, Zoé, Lison, Lily, Ramatoulaye, Tom, Élise, Mélanie, Mathéo, Joseph, Chahine, Nelson, Cyril, Rémi, Quentin, Thibaut, Bérina, Victoire, Gabriel, Inès, Zoé, Ambre, Louise.
Cette émission est disponible en podcast sur le site internet de notre radio partenaire rpl.radio.
À très bientôt sur Radio Saint-O.